Allez-y. Non, une seconde. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine. On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Crugère.
Sortez.
Bonjour, nous sommes à table avec Emmanuel Romanet da Fonseca. Bonjour. Vous êtes historienne et chercheuse associée à l'Institut d'études transtextuelles et transculturelles de Lyon Jean Moulin. Et nous allons parler d'un sujet qui est essentiel dans le domaine de la nourriture, qui est celui des nourrices. Emmanuel Romanet da Fonseca, pourquoi les nourrices ?
Je me suis d'abord intéressée aux enfants abandonnés, parce qu'à Lyon, on a de très belles archives des hospices civils de Lyon, qui s'occupaient donc des enfants pendant très nombreux siècles. Et finalement, comme ces enfants ne sont pas gardés à l'institution dans le centre de la ville et qu'ils sont placés très rapidement à la campagne, j'ai donc découvert ce monde des nourrices que je trouve relativement passionnant.
Alors, Emmanuel Romanet da Fonseca, si l'on remonte dans le temps, dans la nuit des temps, si l'on remonte dans l'Antiquité, déjà dans le code babylonien, dans le code Hammurabi, on réglemente le rôle des nourrices.
Exactement, le code d'Hammurabi, donc c'est un texte juridique babylonien qui date d'environ 1750 avant Jésus-Christ. Et déjà, on statue en fait sur l'allaitement, puisque je cite « une nourrice qui n'allaite pas assez à un nourrisson qui lui est confié et cause sa mort aura son sein tranché ». Donc on est déjà sur effectivement un réel intérêt pour ces questions d'allaitement, de nourrissage, comme on l'appelait aussi.
Alors ces nourrices, est-ce qu'on considère d'emblée qu'il y a des vertus magiques au lait ? Est-ce qu'on reconnaît ce lait comme quelque chose de particulier ?
Alors oui, le lait est un aliment à part. Dans l'Ancien Testament, le lait est comme le miel d'ailleurs synonyme de terre promise.
Ah oui, le Liban, c'est...
Exactement. Et le lait fait partie avec le sang et le sperme de ce qu'on appelle les grandes humeurs fondamentales du corps humain. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et on lui accorde des pouvoirs. Alors, je ne sais pas s'ils sont magiques, ces pouvoirs, mais on lui accorde des pouvoirs. Dans la mythologie, on estime qu'un enfant peut avoir un destin singulier grâce à ce lait qui a des pouvoirs. Et vous connaissez tous l'histoire de Romulus et Rémus qui ont été allaités par une louve. Et puis, leur destin. On considère aussi que le lait va donner une parenté symbolique à des enfants qui ont été allaités par la même femme. D'ailleurs, ces enfants, qui sont frères ou sœurs de lait, n'auront pas le droit de se marier puisqu'ils sont, entre guillemets, considérés comme des frères et sœurs de sang. Voilà.
Oui, donc le lait est assimilé au sang. Et jusqu'à quelle époque on considère d'ailleurs que ce lait, c'est du sang transformé ?
Ah, alors très tard. En réalité, la fabrication du lait est restée très, très, très longtemps mystérieuse. On pensait que c'était du sang cuit et blanchi. En réalité, on s'était imaginé que le sang qui nourrit le bébé in utero montait dans les seins des femmes après l'accouchement, qu'il était cuit. Il y en a un terme pour cette cuisson, on parle de coction, et que c'est ensuite que ce lait devenait blanc et nourrissait donc l'enfant nouveau-né. Ce qui a permis aussi à tous les médecins du 19e siècle de dire qu'il y avait une continuité entre la grossesse et l'allaitement, et que la femme devait donc allaiter, puisque c'était la suite, en fait, de sa grossesse. Et en plein 19e, Adolphe Pinard, qui est un accoucheur très célèbre, aura cette maxime qu'il va répéter très souvent, que le lait de la mère appartient à l'enfant. Donc c'est vraiment l'idée de la continuité.
Vous évoquiez Romulus et Rémus, donc Rome. Jules César s'est intéressé lui aussi aux nourrices.
Alors oui, on sait que Jules César avait un intérêt particulier. Alors bon, en deux mots, juste redire un petit peu, les femmes de haut rang à Rome achetaient des esclaves pour nourrir leurs bébés. Et les femmes qui étaient plus modestes, elles se rendaient au Forum Lactarium, donc c'est une sorte de marché, et près de la colonne de lactaires venaient faire allaiter leur bébé. Et Jules César, qui se promenait, qui parcourait les rues de Rome, aurait donc dit « Les Romaines n'allaitent-elles pas leurs enfants qu'elles n'ont au bras que des petits chiens ?» Donc voilà, ils étaient étonnés de ce fait. Et là, on est déjà sur, la fait de porter un jugement sur le fait que les femmes ne font plus, entre guillemets, leur travail de mère. Dans tous les siècles qui vont suivre, on aura toujours un gouvernement, un État, quel qu'il soit, qui va s'intéresser justement à cette question de l'allaitement.
Oui, parce que le pouvoir dans tous les États et dans tous ces États, c'est toujours intéressé à la réglementation de l'allaitement.
Toujours, parce qu'en fait, derrière cette question de l'allaitement, il y a la question de la mortalité des bébés, de la surmortalité en cas de mise en nourrice, et évidemment des questions de natalité, enfin des questions démographiques. Et on sait qu'un pays, pour ses dirigeants, est fort s'il a effectivement une population importante. Donc ça a toujours été quelque chose de très, très important pour le pouvoir. Le pouvoir a toujours statué sur ces questions d'allaitement.
Et l'empereur Titus ?
Alors l'empereur Titus, puisque le lait est toujours ce lait qui est un transmetteur, il ne faut pas que la nourrice ait de maladie. Et l'empereur Titus, on sait que ce bon empereur qui avait été allaité par du lait pourri a dû passer toute sa vie en peine. Donc, d'où l'intérêt que la nourrice soit en très bonne santé.
Et il y a un roi qui avait une réputation particulière, c'est Louis XIV. Alors, est-ce qu'il est vraiment né avec deux incisives ?
Alors, Louis XIV est né, on a dit, avec ce qu'on appelait à l'époque une bouche meublée. Donc, il avait deux incisives à la naissance. Ce n'est pas forcément très rare, hein, ça se produit, hein, ça arrive. Et donc, il a, entre guillemets, neuf nourrices parce qu'il leur déchirait les seins. Et donc, elles se succédaient les unes après les autres. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a une interprétation politique de la voracité du futur roi, puisqu'on a dit à ce moment-là que les pays voisins de la France pouvaient trembler parce que ça présageait, en fait, de l'aspect belliqueux du futur monarque.
Eh bien, on va essayer de pacifier un petit peu le débat avec Jules Massenet et une berceuse, le chant de la nourrice.
Regarde ce ballon qu'au ciel le vent balance comme un grand oiseau. Les ballons sont aussi des berceaux dont la brise tourmente le vol. Oh mes nacelles, oh Dieu, que de fois tout se brise en touchant le sol. Les berceaux sont des nids, des nacelles captives, de petits vaisseaux. Mais loin des vents, des loups et des vagues plaintives, dorment les berceaux.
Dors, mon petit enfant, ce n'est pas à vous que je m'adresse, Emmanuel Romanet da Fonseca, mais à tous ces petits-enfants que vous avez étudiés, en particulier au XIXe siècle, avec une mode considérable de la nourrice, peut-être liée aussi à la révolution industrielle.
Alors en fait, le XIXe siècle est ce qu'on appelle l'apogée de l'allaitement. On parle d'allaitement mercenaire et de réelle industrie de l'allaitement. Pour donner quelques chiffres, à Paris, on sait qu'au XIXe siècle, dans les années 1890, la fin du XIXe, 30% des bébés sont placés en nourrice. Sans compter, parce que là c'est plus compliqué d'avoir des chiffres, les enfants qui ont nourrice sur lieu, c'est-à-dire à la maison, donc avec eux. Lyon, c'est encore pire, puisque 48% des bébés nés à Lyon partent en nourrice. Et Lyon aura à la fin du XIXe siècle un chiffre qui est époustouflant, puisqu'on est à 65% d'enfants qui sont mis en nourrice, qui partent en fait à la campagne.
Et il y a des chiffres alors encore plus terrifiants qui sont ceux de la mortalité infantile à ce moment-là.
Alors oui, puisqu'on peut même parler de surmortalité infantile. 71% des bébés qui sont placés en nourrice ne vont pas atteindre leur premier anniversaire, ne se feront pas leur première bougie.
Et quelquefois même n'atteignent pas leur destination.
C'est ça, puisque parfois ils n'arrivent même pas chez la nourrice qui est chargée de s'occuper d'eux, puisqu'ils font le voyage avec des meneurs ou des meneuses. Peut-être aussi parfois des femmes. Et on a une très belle citation d'Émile Zola dans un ouvrage qui s'appelle « Fécondité ». Donc on est vraiment
dans le sujet.
Complètement dans, oui. dans le sujet. C'est un ouvrage qui s'indigne, puisque quand Zola décrit les meneurs qui transportent ses enfants dans des paniers, ils ont des paniers, d'énormes paniers, et les enfants sont considérés comme des marchandises. Et il dit « Puis il fallait voir dans les trains quel entassement de pauvres êtres qui criaient de faim. L'hiver, surtout par les grandes neiges, ça devenait pitoyable, tant ils grelottaient, bleus de froid, à peine couverts de maillots en loques. Souvent, ils en mouraient. » Donc effectivement, parfois, les bébés n'arrivent pas chez la nourrice à la campagne.
Et alors, comment ça se passe chez la nourrice à la campagne ?
Alors, les conditions d'hygiène dans les campagnes au 19e sont exécrables, vous l'imaginez. Les bébés sont évidemment côtoient les animaux, puisque à la ferme on côtoie les animaux à cette époque-là, donc sont près du fumier. Parfois les animaux sont dans la pièce à vivre, l'unique pièce à vivre. On sait aussi que les nourrices ne font pas ça pour le plaisir, elles le font pour l'argent très souvent. Donc elles partent ramasser du bois, elles partent travailler dans les champs, elles laissent les enfants sans surveillance.
Elles les suspendent ?
Parfois elles les suspendent pour éviter qu'ils aillent se brûler, mais les animaux viennent parfois lécher, voire dévorer. On a aux hospices civils de Lyon de très belles archives, puisqu'il y a des inspections dans les hospices civils de Lyon qui placent les enfants abandonnés. Et les médecins qui ont donc fait ces inspections nous décrivent la situation. Parfois, les enfants, effectivement, sont mordus. Donc, c'est des conditions extrêmement difficiles pour eux. L'hygiène n'est effectivement pas au rendez-vous. Et souvent, les nourrices, en plus, quand les enfants sont malades, elles n'appellent pas le médecin. Elle les soigne elle-même pour ne pas, évidemment, dépenser d'argent. Et ça surajoute à cette mortalité.
Et le code d'Hammurabi ne s'applique pas, là, à l'époque ?
Non, le code d'Hammurabi ne s'applique pas. Ce qui peut se passer dans un cas comme ça, la nourrice ne sera pas rémunérée. Ou, effectivement, ne lui représentera pas d'enfant, ne lui reproposera pas d'enfant. Mais c'est le seul risque, entre guillemets, encouru. Et puis ce qui se passe aussi dans les campagnes, c'est que très souvent la nourrice a son propre bébé, son propre enfant qu'elle allait aussi. Et très souvent l'enfant qui est placé n'est pas assez nourri. Donc elle va compléter avec du lait animal qui n'est pas du tout fait pour un enfant. Donc s'en suivent des diarrhées, des maladies, et puis l'enfant est malade et décède.
Alors, il y a déjà des biberons très tôt, mais il faut attendre Pasteur pour avoir des biberons sains.
Le biberon, on l'appelait à l'époque au 19e un engin de mort, puisque très souvent, quand on voulait nourrir un enfant au biberon, forcément, avant Pasteur, puisque le lait est quand même quelque chose qui se... Très vite, il y a des bactéries, donc c'est très compliqué. Et comme souvent, les biberons avaient des petits becs, et le lait stagnait, donc très vite, ou alors on mettait des torchons pour faire des sortes de tétines pour que l'enfant puisse téter. C'était évidemment pas dans des conditions d'hygiène, de bonnes conditions d'hygiène. Donc ça s'infectait très très vite et les enfants évidemment étaient malades et puis décès très rapidement.
Ben pour se consoler, on va quand même écouter l'hommage de Bourvil aux nourrices.
Quand on est petit petit, à ce qu'on peut rire. Quand on est petit petit, on peut tout dire. Elle est grosse la dadame, comme un hippopotame. Il est moche le monsieur, il a plus de cheveux. Tais-toi, dit la maman. Pourquoi disent les gens? La vérité souvent sort de la bouche des enfants. Ah ah, si j'étais encore nourri, on me passerait tous mes caprices. Je serai un bébé mignon avec un bavoir sous le menton. Et j'aurai pour fourrer mon nez de jolis nénés bien balancés. C'est du malheureux qu'on grandit. Pisse, si j'étais encore en nourrice. nourrice.
Si j'étais encore nourrice. Alors, que disait Stendhal de ses nourrices?
Alors, Stendhal, il dit que cet ensemble d'habitudes et de manières de voir qui nous émerveillent dans notre enfant et ce qu'on appelle son caractère lui est donné d'abord par sa nourrice. Et là, on est sur la question du lait qui est considéré comme un transmetteur. On a longtemps pensé que le lait transmettait les vices et les qualités, et qu'ainsi, il fallait choisir correctement une nourrice. Ça a donné lieu d'ailleurs à toute une littérature, entre guillemets, des guides, on dirait aujourd'hui, pour comment choisir sa nourrice. D'ailleurs, Sorano d'Éphèse, qui est un médecin grec du IIe siècle, a toujours expliqué qu'il fallait qu'elle soit sensible, paisible, de façon à avoir un lait qui soit conforme à ses qualités. Et en plein 19e siècle, on retrouve, c'est relativement étonnant, des livres pour le choix de la nourrice qui nous disent que si la nourrice est bornée ou peu intelligente, son lait sera bête. Et si la nourrice est bête, elle va épaissir l'intelligence du nourrisson. Donc vous voyez qu'en plein 19e, on est encore sur cette idée que le lait transmet les vices et les qualités.
Il y a encore des gens qui croient à ces choses-là aujourd'hui?
Non, je ne pense pas, mais peut-être que dans d'autres contrées, dans d'autres pays, oui. On peut,
parce que dans les tables bourgeoises, la nourrice était traitée particulièrement bien.
Effectivement, dans le cas des nourrices sur lieu, donc les femmes qui viennent dans les maisons bourgeoises pour allaiter les enfants, là, elle est extrêmement bien traitée. On va même parfois avoir des nourrices qui sont suralimentées et certains médecins sont obligés de mettre en garde la famille en disant « attention, arrêtez de la gaver ». Et d'ailleurs, il y a une locution populaire qui est restée, on parle du morceau de la nourrice qui est en réalité le meilleur morceau.
Et ces expériences d'allaitement, est-ce qu'elles se faisaient dans l'intimité familiale où tous les gars du village étaient là pour assister à l'allaitement?
C'est dans l'intimité familiale. Par contre, ce qui n'est pas du tout intime, c'est la nourrice qui vient donc se placer à Paris ou dans une grande ville, ces fameuses nourrices sur lieu. Elles doivent passer par un bureau de placement des nourrices. Et là, c'est relativement difficile puisque elles vont être auscultées par des médecins qui va palper les seins, qui va goûter le lait aussi. Et les parents viennent choisir, c'est un petit peu un marché aux bestiaux. Et puis il faut aussi savoir que les sages-femmes profitent aussi de leur connaissance médicale pour conseiller telle et telle nourrice à des parents qui s'en remettent aussi évidemment au médecin ou à la sage-femme. Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Crugère.
Donc Brassens, Margot, revue par Sidney Béchet, Emmanuel Romanet da Fonseca, c'est nourrice sur lieu. Il y en avait beaucoup qui venaient de la Nièvre aussi.
Alors effectivement, c'est très connu. On sait que les nourrices du Morvan étaient très recherchées pour leur lait. Et c'est intéressant parce que du coup, elles ont permis à leur famille, en venant se placer notamment à Paris, d'acheter des prés, des bois et des maisons. Et ces maisons s'appellent des maisons de lait. Donc c'est vraiment très très intéressant. On a au 19e siècle un docteur Monod, fameux docteur Monod, qui s'alarme un petit peu de la situation puisque dans son canton, il y a 10 communes dans son canton et il a vu comment en fait la majorité des femmes, puisqu'on est sur 2/3, 75% des femmes qui ont accouché, qui partent, qui laissent leur mari. Alors elles emmènent leur nourrisson, puisqu'il faut continuer à allaiter pour que le lait, voilà. Mais il reviendra quand elle aura trouvé une famille, il reviendra avec un meneur. En tout cas, 75% des femmes qui ont accouché partent se placer à Paris. Et c'est dramatique évidemment pour les familles, pour les maris et puis pour les enfants. C'est vrai qu'au 19e siècle, à cette époque de l'allaitement mercenaire, on a une généralisation de la nourrice sur lieu, puisqu'en fait, la bourgeoisie urbaine va vouloir faire comme l'aristocratie, la noblesse, puisque dans la noblesse, on n'allaitait pas ses enfants. Donc du coup, en prenant une nourrice à la maison, on peut la surveiller. C'est aussi, entre guillemets, parce qu'au XVIIIe, les Lumières ont beaucoup dit aux femmes, ce n'est pas bien d'allaiter.
Oui, Rousseau n'aime pas du tout l'idée de la nourrice.
Voilà, il déteste ça. Il dit qu'une femme qui allaite l'enfant d'une autre n'est pas une vraie mère. Et que si les femmes allaitaient elles-mêmes leurs enfants, la société irait beaucoup mieux. Donc dans l'Émile ou de l'éducation, on trouve donc ces propos-là. Alors les Lumières n'ont pas du tout convaincu les femmes de l'époque. Il y a bien eu ce qu'on a appelé la mode de la mamelle, c'est-à-dire qu'à la cour, les femmes de la cour se faisaient apporter leurs enfants pour les allaiter. Mais ça s'appelle une mode, et comme toutes les modes, elle est passée très rapidement. Mais par contre, les philosophes du 18e ont quand même fait comprendre aux femmes du 19e que c'était bien de surveiller la nourrice. Et en ayant la nourrice à la maison, au moins, c'était moins dangereux pour son bébé. Plus la nourrice va être éloignée de la ville, moins on va payer cher la mise en nourrice de son enfant, mais moins on aura aussi, entre guillemets, de surveillance, que voilà, à l'époque, on voyait, je sais pas, facilement. Et parfois, il y a même des femmes, c'est le cas d'Emma Bovary dans Flaubert, qui vont pas forcément très loin. À la naissance de Berthe, Emma Bovary place sa fille au bout du village, chez la mère Rollet, qui est en fait la femme du menuisier.
Et y a-t-il une différence entre la maison de lait et le débit de lait?
Qui les vole de Villet? Oh, quel palais le débit de l'eau! De Villet si beau, débit de l'eau, bah palais! S'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Bobby a mis du lait dans son eau et la babée de l'eau dans son lait. Ils ont enfin compris que leurs débits unis font le plus grand, le plus joli des beaux débits. Et les badauds sont emballés par les bidons, les babés. Oui, mais Bobby garde pour lui les deux plus beaux bidons de lait de la babée jolie. Et maintenant, si vous y allez, vous entendrez le joyeux babil de deux beaux bébés blonds qui font tomber d'un bond tous les bidons de lait de la maison. Tous les bidons de lait de la maison. Tous les bidons de lait de la maison. Ils se battent à coups de beaux bidons. C'est Bobby, c'est babé, allez donc. Fidlididum, vadum, vadum,
dadum, papadum, dadum. Ces nourrices ont aussi des remplaçantes?
Ce sont les mères qui sont remplacées, c'est la nourrice, la remplaçante. Oui. Ça a d'ailleurs donné lieu à une pièce de théâtre, tout début XXe siècle, qui s'appelle Les Remplaçantes, qui a été jouée au Théâtre Antoine. Ensuite, comme ça a tellement bien marché, c'est devenu un livre. Et on a des gravures, de très belles iconographies, parce que les nourrices allaient promener les bébés dans les parcs, à Paris ou à Lyon. Et là, elles étaient très souvent courtisées par les soldats, qui adoraient ces nourrices, qui étaient très bien habillées, avec des rubans. Puisque tout à l'heure, on a dit qu'elles étaient choyées par la famille. Et justement, la nourrice, elle est aussi, très surveillée par la famille, parce qu'il y a un interdit, un tabou qui persiste jusqu'à la fin du 19e siècle, et peut-être même au début du 20e siècle, c'est qu'on ne peut pas avoir de rapport sexuel quand on allait un enfant. Et Soarano d'Éphèse, notre médecin grec du 19e, dit qu'il faut choisir entre le rôle de mère ou le rôle d'épouse. Donc on interdit aux femmes qui allaitent d'avoir des rapports sexuels. Donc la nourrice qui est employée dans une famille bourgeoise est très 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 surveillée. Et c'est une femme qui allaite, parce qu'à Lyon par exemple, on sait que les familles bourgeoises, les femmes allaitaient quand même jusqu'au troisième ou quatrième enfant. Il y a de très grandes fratries. Après, elles délèguent un petit peu. Mais en tout cas, les rapports sexuels n'ont pas lieu. Mais on sait que dès que l'enfant met sa première dent, c'est pas valable pour Louis XIV, bien sûr. Dès que l'enfant met sa première dent, le père peut demander ses droits, c'est-à-dire peut redemander à son épouse de redevenir, donc vraiment son épouse et plus la mère du nouveau-né. Donc on a encore cet interdit qui perdure très longtemps. Et puis ça a aussi contribué, cet interdit, à la mise en nourrice, parce que le mariage catholique nous dit que l'épouse et l'époux se doivent mutuellement fidélité. Donc si le mari ne veut pas, évidemment, commettre l'adultère, ou être tenté de commettre l'adultère, il va donc demander à son épouse d'avoir une nourrice.
Et ces nourrices viennent dans les maisons avec leurs propres enfants?
Et non, les enfants sont donc ramenés. Une fois qu'elle a été choisie dans le bureau de placement, le meneur reconduit le bébé, le nourrisson, donc dans la famille, à la campagne. C'est assez tragique d'ailleurs, quand on y pense.
Et Alphonse Daudet, ça l'inspire, les nourrices?
Tout à fait. Alphonse Daudet, dans un texte qui s'appelle « L'Inounou » d'ailleurs, il explique que quand nounou pleure, les sangs tournés font le lait aigre. Donc ça, c'est un texte qu'on trouve dans La Jeune Mère, on est en 1889, et on revient sur cette idée que le lait transmettrait, en fait, les vices, les qualités et les humeurs. Donc c'est très, très important, effectivement, que la nourrice soit toujours, ne soit pas énervée, ne soit, qu'elle soit dans de bonnes conditions. D'ailleurs, à ce sujet, il parle de lait aigre. Vous savez que les femmes rousses ne pouvaient pas devenir nourrices. Il y a des stéréotypes comme ça, on dit que la femme rousse a un lait aigre qui donne des diarrhées au bébé. Donc finalement, voilà, elle n'était pas choisie. Et on dit aussi que les femmes brunes ont du meilleur lait ou plus de lait que les femmes blondes. Tell it again, tell it again, tell it just the same. The very same people, the very same story, and call it the very same name. Tell it again, tell it again, tell it just the same. The very same people, the very same story, and call it the very same name. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un regain pour l'allaitement maternel, mais alors là, par la mère elle-même, puisque les derniers chiffres qu'on a nous disent que 64% des bébés qui sont allaités à la maternité, donc des femmes qui accouchent, allaitent leur bébé à la maternité. Après, ça diminue parce que, bon, rentrer chez elles, c'est parfois plus compliqué, puis après, il y a le travail. Il y a une vraie pression aujourd'hui sur les femmes pour allaiter. On dit que c'est meilleur pour la santé de l'enfant. On a même dit que le QI de l'enfant serait plus élevé.
Ah oui, donc on continue à...
On continue, tout à fait. L'OMS, d'ailleurs, a dit, enfin, c'est vrai qu'il est favorable à l'allaitement. Et puis, il y a beaucoup d'associations pro-allaitement. Donc finalement, on arrive aussi à une dérive parce qu'on sait qu'aujourd'hui, et notamment j'ai lu un article récemment dans la presse anglaise, que certaines femmes, en plein XXIe siècle, qui ne peuvent ou ne veulent pas allaiter, passent des petites annonces pour trouver des nourrices au premier sens du terme, c'est-à-dire des femmes qui allaiteraient pour elles, à leur place, leur enfant. Ce qui est très dangereux, puisque c'est pour ça que les pouvoirs publics aussi sont un petit peu alertés, sont un petit peu alarmés de cette situation, puisque le lait transmet, bon, notamment aujourd'hui, c'est plus la syphilis qu'au 19e, hein, qui était l'angoisse première de la maladie que la nourrice pourrait redonner, en tout cas transmettre à l'enfant. Aujourd'hui, évidemment, ce serait le sida ou ce genre de maladie, bien entendu.
Et Emmanuel Romanet da Fonseca, si l'on examine sur un plan juridique la relation à la nourrice aujourd'hui, est-ce qu'il y a des textes qui vont dans le sens du code d'Amourabi ou des ordonnances de Louis XIV?
Non, c'est quand même beaucoup plus léger, abusif entre guillemets, mais le fait de s'occuper de petits-enfants, c'est quand même très réglementé. Mais en même temps, les nourrices, les personnes qui s'occupent d'enfants en bas âge, n'ont pas toujours, quand c'est à la maison, à domicile, ne vont pas toujours forcément respecter.
Et il y a encore des nourrices à domicile aujourd'hui, en France?
Oui, dans les milieux très aisés, effectivement. On a aussi ce rapport, parce que finalement, au 19e, il y avait aussi comme un rapport social entre la femme aisée, bourgeoise ou noble, qui pouvait donc se permettre de prendre à la maison une nourrice. Il faut savoir qu'elle restait dans la famille entre 1 an et 18 mois. Donc là, effectivement, il y a quand même un rapport de classe, on peut l'appeler comme ça. Aujourd'hui, on a encore des nourrices ou des nurses, comme on les appelle dans certains milieux aisés, qui s'occupent de l'enfant à la maison, en tout cas, qui vient non seulement le garder, mais dans certains milieux, qui le gardent jour et nuit. En tout cas, elles peuvent se relayer, mais les femmes...
Mais elles n'allaitent pas.
Non, elles n'allaitent pas. Sauf, effectivement, avec cette nouveauté qu'on a vue pour l'Angleterre. Et en France, apparemment, il n'y a pas de cas aujourd'hui, en tout cas pas de cas recensés d'allaitement... de nourrice au vrai sens du terme, qui allaiterait un bébé.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'ordonnance de Louis XIV?
Alors, Louis XIV, c'est une ordonnance de 1715.
Donc l'année de sa mort.
Voilà, qui interdit aux nourrices, en cas de grossesse ou de maladie, de prendre des enfants pour les allaiter. Et elle risque évidemment le fouet ou l'amende. Et l'amende, pardon. C'est pas où, c'est et l'amende.
Merci beaucoup, Emmanuel Romanet da Fonseca.
C'était un plaisir.
Fais attention, hein. 3, 4. Plié, tendu, la jambe et...
C'était On parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère, avec la collaboration de Dominique Compétissa, la prise de son est d'Éric Boissé, le mixage de Claude Niort et la mise en onde de Delphine Lemaire. pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et 1001 nuits. Vous pouvez la podcaster ou la télécharger. Et dans quelques instants, le journal sur France Culture. Hey!